Et depuis, j'ai plus de cheveux. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur a gardé. Et donc les rideaux ont pris feu, les rideaux avec le vent, ça a été à l'extérieur. Donc j'habitais dans une banlieue, dans une grande ville de France. Et puis très peu de temps après, mais très peu de temps après, les pompiers sont arrivés. Bon, comme c'était un labyrinthe dans la banlieue où j'étais, ils ont eu un peu de problème. Mais j'ai même pas eu besoin d'appeler les secours. Je pense que les voisins l'ont fait avant moi. Parce qu'ils ont dû sentir une drôle d'odeur, ils ont dû voir les flammes. Et ce matin, je voudrais que nous puissions parler ensemble. Alors, je sais que les pompiers, ce n'est pas le 144 en Suisse. On aurait pu dire le 112. L'appel au 144 divin, ou l'appel du Macédonien, dans Acte 16. Un appel au secours. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, on a pris la Sainte Cène ensemble, on déclare le salut en Christ. Je ne sais pas qui, à l'époque, a entendu de la part du Seigneur cet appel au secours qui était au fond de nos cœurs. Qui nous a témoigné de l'amour de Dieu? Dans quelles circonstances on a pu entendre la bonne nouvelle? Dans quelles circonstances on a pu répondre à cette bonne nouvelle? Est-ce qu'on se souvient, peut-être que c'est aussi le cas ce matin, de quelqu'un qui a un appel au secours. Vous savez, je me souviens il y a quelque temps de ça, lors d'un culte, je sens dans mon cœur, pendant l'appel, et je sentais même avant la réunion, comme de faire un appel, enfin de faire un appel, de prier pour les personnes qui ont des pensées suicidaires. Et lors d'un culte, ici, je me souviens avoir prié, avoir lancé cet appel, de dire si quelqu'un a ce genre de pensée, eh bien maintenant on prie au nom de Jésus. Ce qu'on fait, à mon souvenir, presque jamais, je crois. Et je me suis dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que c'est ton imagination? Des fois, on pose des questions. Et juste après le culte, quelqu'un m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui était là ce matin, et qui avait des pensées suicidaires. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce que tu connais notre cœur, tu connais les besoins de notre cœur, tu connais les cris de nos cœurs, et puis tu connais aussi les cris du cœur de ceux qui nous entourent. Et c'est ce qui s'est passé dans ce texte. On va prendre, si vous avez votre Bible, mais on a aussi mis aussi les versets affichés, si tu peux passer l'autre slide, s'il te plaît. Donc, on va prendre le texte, acte 16. Et il y a, dans ces versets, le passage de Paul et ses compagnons qui parcoururent la région de la Phrygie et de la Galatie, l'Esprit Saint les ayant empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Arrivés à la frontière de la Mysie, ils cherchèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils passèrent donc par la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision d'un Macédonien qui se tenait debout et le suppliait, « Passe en Macédoine et secours-nous ! » Après que Paul eut cette vision, nous nous préparâmes aussitôt à partir pour la Macédoine, pensant que Dieu nous avait appelé à leur annoncer l'Évangile. Vous connaissez ce texte? C'est la traduction de l'anglais, donc de la NIV. Qu'est-ce qui se passe? Le contexte ici, c'est que c'est lors du deuxième voyage de Paul, et Paul va être avec une équipe. Il y a Timothée, il y aura également Luc, qui écrit. Il y a également un que j'oublie, aidez-moi, avec qui il est parti au deuxième. Qui? Silas. Mais lors du premier, alors quand on lit ce texte, est-ce que vous pouvez regarder la carte? Et puis je vais vous lire, voilà, en regardant la carte, je vais juste vous lire le contexte, c'est-à-dire Luc 15, 36, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est la fin du premier voyage missionnaire. Dans Acte 15, voilà que Barnabas et Paul sont revenus. On sait l'implantation d'église, on sait ce qui s'est passé. Et au verset 36, regardez bien la carte, comme ça vous allez suivre un peu la géographie. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés. Depuis la Pamphylie, je ne sais pas si vous voyez bien, donc depuis la Pamphylie, et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche, donc ils ne sont pas d'accord. Et puis, comme ils ne sont pas d'accord, bien finalement, il va y avoir, au lieu d'avoir une équipe, il va y en avoir deux. Barnabas va prendre Jean-Marc, et vous l'avez sur l'itinéraire bleu, donc vous voyez Syrie, ils vont partir à Chypre. Et Paul, lui, choisit Silas. Et eux, ils vont partir, il est dit, alors regardez bien la carte, donc au verset 40, Paul choisit Silas, parti confié par les frères à la grâce du Seigneur, donc les deux sont envoyés. Et puis ils vont traverser la Syrie, vous l'avez, et la Cilicie, en fortifiant les églises. Il se rendit aussi à Derbe. Donc ça ne fonctionne pas, si tu peux changer, s'il te plaît. Donc, la carte d'après. Ok, je lis. Ils vont ensuite à Derbe et à Lystre, là vous l'avez. Il y avait aussi là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage. Donc Paul, en fait, va avec cette équipe et puis ils vont les fortifier. Donc là, on est dans un contexte. Si tu peux passer l'autre slide. On est dans un contexte d'une nouvelle équipe. Il y a une nouvelle équipe qui est en train de se former lors du deuxième voyage missionnaire. Et les deux vont être bénis. C'est intéressant de voir que finalement aujourd'hui, on est quelque part appelé à être dans une dynamique d'évangélisation. Et des fois, alors lors de l'Église primitive, ce qui va se passer, c'est que Dieu va multiplier. On est tous appelés à témoigner, on est tous appelés à témoigner à tout le monde. Mais on voit que lors de l'Église primitive, eh bien, il va y avoir comme des équipes qui vont se former. Nouvelle équipe, je ne sais pas si on peut faire quelque chose avec la télécommande, ça serait super. Nouvelle équipe, l'autre slide, il va y avoir quoi d'autre? Une nouvelle croissance. Nouvelle croissance au verset 4. Et là, on va suivre l'équipe de Paul. Ça va, vous me suivez? Vous allez comprendre, hein, on est dans le contexte. Ne vous endormez pas, on va arriver au vif du sujet. Verset 4, dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi est augmentée en nombre chaque jour. Donc ça, c'est formidable. C'est extraordinaire. Donc ils vont se retrouver, on va juste passer ensuite nouvelle vision. Mais ça fonctionne, c'est superbe. Ça, c'est bien. Voilà, donc en gros, on est ici avec une équipe qui va partir à Chypre et une équipe qui va partir par la Syrie, la Cilicie, qui vont revisiter les églises qui ont été implantées lors du premier voyage. Et puis, la Bible nous dit que ils vont vouloir arriver et évangéliser l'Asie que vous voyez ici. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose d'assez surprenant. Et c'est quelque chose qui va être un moment fondamental. D'un seul coup, au verset 6 d'acte 16, alors qu'on a une équipe qui est motivée pour évangéliser, pour annoncer l'évangile, ils voient des miracles, ils sont motivés. Et d'un seul coup, l'Esprit de Dieu va les empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Et notamment en Asie, je ne sais plus si vous vous souvenez là où c'était, et également Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont traverser la Phrygie, la Galatie. Ils arrivent près de la Mysie. Vous avez, c'est au bord de la mer. Hein, et là, ils veulent aller en Bithynie au nord. Et d'un seul coup, ils ne reçoivent pas l'autorisation du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Comment cela est-il possible? Vous imaginez, vous avez envie d'aller évangéliser à Lausanne, et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit vous dit « Non, n'allez pas évangéliser, n'allez pas là-bas. » Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ce qui est remarquable dans cette équipe, c'est que cette équipe avec Paul, Silas, Timothée et Luc qui écrit, ils vont avoir cette capacité. Alors, on ne sait pas comment le Saint-Esprit les a empêchés. Est-ce que c'est au travers de circonstances? Des fois, on a des plans, on a prévu des plans, on a des projets, et notamment pour l'œuvre de Dieu. Et d'un seul coup, il y a des contretemps. Des fois, il y a comme quelque chose qui nous empêche. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ennemi qui vient et qui se lève? Qu'est-ce qui se passe? Et quelquefois, on se rend compte avec le recul que finalement, heureusement qu'on n'a pas été à ce moment-là dans cette action. Heureusement. Et c'est le cas ici. Leur capacité, finalement, à ne pas ne pas forcer les choses. Mais ils vont continuer. Et puis, ils arrivent finalement acculés. Je ne sais pas si je vous remets la carte. Ils vont arriver à Troie. Vous avez sur la carte ici. Vous imaginez, ils sont partis d'en bas. Hein. Ils sont partis d'Israël, la Syrie, la Galatie. Ils ont fait tout l'itinéraire. Et d'un seul coup, ils ont deux empêchements. Alors, ils se disent, OK, on est à Troie. Qu'est-ce qu'on fait? On part en Bithynie au nord. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit ne leur permit pas. Est-ce que ça vous a déjà choqué quand on a lu ce texte? On a la vision du Macédonien. Est-ce que ça veut dire que Dieu a plus d'amour pour les Macédoniens que pour ceux qui habitent en Bithynie ou au pont? Quelle est la stratégie du Seigneur? En tant qu'Église, nous sommes appelés à être des témoins. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile, à le vivre et à l'annoncer. C'est notre mandat, c'est notre ADN. Évidemment, mais comment faire? Comment s'y prendre? Et là, on a ici cette stratégie de la part de Dieu. D'un seul coup, ils ont continué, ils ont un refus du Saint-Esprit. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on pourrait se dire, hein, en tant qu'Église, ou en tant que chrétien, qu'est-ce que je fais? J'ai parlé déjà à mes voisins, j'ai déjà parlé dans mon travail, j'ai déjà parlé, ils n'ont pas accepté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je continue à évangéliser? Est-ce que je continue à annoncer l'Évangile? Est-ce que je continue à être un témoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand il y a des opportunités, on peut, hein, évidemment. Mais ici, Paul a une vision dans le texte, dans le terme grec. C'est quand il est parlé de vision, cette vision va amener des nouveaux fruits, un nouveau terrain de mission, des nouvelles églises. En quoi ça nous concerne? L'Évangile a pénétré l'Europe. Et l'Europe, finalement, ça a été comme une brèche et finalement, on est concerné de première main. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? On a la vision. Et la vision, c'est une direction du Saint-Esprit. Et il va leur dire, finalement, la priorité, ce sont les Macédoniens. Et Paul et toute son équipe ne vont pas s'obstiner à aller en Bithynie. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ces chrétiens de Bithynie? Eh bien, vous savez quoi? Ils vont être d'abord en Asie, ils vont être évangélisés lors du troisième voyage. Et puis ceux qui habitent un peu plus haut, au pont et en Bithynie, regardez, l'expansion de l'Évangile lors du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, effectivement, eh bien, l'Évangile va se répandre, ils vont entendre l'Évangile. Comment? Au travers des églises qui ont été implantées. Et en même temps, regardez, la Macédoine, c'est les deux points rouges, je ne sais pas si vous voyez, et ça a été comme finalement un tremplin pour que toute l'Europe puisse être évangélisé. C'est parti de quoi? C'est parti d'une équipe qui, à un moment donné, pour eux, c'était naturel d'aller en Bithynie, de rester dans cette région. C'était naturel. Mais ils ont eu cette capacité d'être à l'écoute de la direction du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas témoigner à ceux qui sont autour, mais une direction précise, on va voir. La direction, c'est quoi ? C'est cette vision, c'est comme une action surnaturelle. Alors, quand on dit action surnaturelle, on parle de Paul, on parle de cette équipe, ils ont vu des miracles. On se sent pas, enfin, je ne sais pas vous, mais on peut se dire, je ne me sens pas forcément à la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que quand je suis chrétien, enfant de Dieu, quand je fais partie d'une famille locale et que je prie, je suis dans une dynamique de recherche, finalement, de la parole de Dieu, de sa volonté, de dire « me voici, je me mets à ta disposition, Seigneur ». Alors, il y a des moments où, tout simplement, on peut avoir à l'esprit une personne dans notre cœur. Alors, des fois, on peut y penser naturellement, mais des fois, d'un seul coup, c'est le Saint-Esprit qui met dans notre cœur d'appeler quelqu'un, d'aller voir quelqu'un. Je me souviens que une fois, je travaillais dans un labo, puis il y avait bien sûr un certain nombre de personnes. Et puis je vois une personne qui travaillait là où je travaillais. Et quand je l'ai vue, j'ai senti comme quelque chose intérieurement, mais tranquillement. Donc pas de révélation d'un Macédonien, mais d'une manière très très légère. Je dis tiens, je sens qu'il y a quelque chose pour cette personne qui n'est pas chrétienne. Et j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, permets-moi de lui rendre témoignage ». Et quelques temps après, c'est lui qui me lance la perche. C'est lui qui me lance sur le sujet. Et j'ai pu lui témoigner, j'ai pu même l'inviter à entendre l'évangile, à l'église. Ça peut être tout simplement ça. Une vision, une intuition, on lit la parole d'un seul coup. Moi, j'ai appris au début, quand j'avais ce genre de pensée, je disais « bon, c'est toi qui penses ça ». Et c'est vrai aussi par rapport à un frère ou une sœur. Des fois, on a des personnes à la pensée. Et au début, pendant longtemps, trop longtemps, j'étais là et je disais, mais bon, ce sont mes pensées. Puis je continuais. Puis d'un seul coup, je me rendais compte après que ça correspondait à une situation. J'ai dit une fois, deux fois, trois fois. Puis au bout d'un moment, je dis non, OK, bon, il faut que je fasse comme Paul. Que je sois attentif à la direction. Des fois, ça peut paraître très, très, très léger. Et après, je l'ai fait. J'ai dit, bon, tant pis, je le fais. Et c'est vrai que 9 fois sur 10, ça fonctionne assez bien. Et c'est bien de développer cet aspect-là. Donc, il y a cette vision de qui ? Il est dit d'un Macédonien. La Macédoine, c'est une province grecque qui a été colonisée par les Romains. Donc, c'est une colonie romaine. Comment il a reconnu que c'était un Macédonien ? Je ne sais pas, puisqu'il a entendu. Est-ce qu'il avait l'accent ? Est-ce que... J'en sais rien. Les habits, je ne sais pas. Mais la vision était claire, c'est un Macédonien. Il se tient debout. Ce n'est pas quelqu'un qui est avachi dans son canapé en disant « Bon, écoute, si tu as 5 minutes, si tu peux m'aider, me donner un coup de main. » Il se tient debout dans la vision. Dans le terme grec, c'est un terme qui dénote une insistance, une durée. C'est pas juste juste une lubie, c'est pas juste OK, tiens, j'ai envie que. C'est quelqu'un qui représente un peuple qui vit une réelle souffrance parce que il y a une supplication. C'est pas juste une demande, mais c'est une supplication. Il va y avoir comme un cri du cœur. Il y a quelque chose de profond. Supplier, c'est parakaleo, c'est... Il y a aussi, vous savez, c'est le paraclète, le consolateur. Parakaleo, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va demander, supplier, inviter, parce qu'il y a un besoin de consolation. Il y a un besoin de salut, de paix. Et aujourd'hui, parmi nos contemporains, quels sont les critères de stress, d'anxiété, de détresse ? Les statistiques nous montrent qu'au niveau de la jeunesse, il y a un fort taux de jeunes qui ont même des pensées suicidaires et qui sont dans l'anxiété. Quels sont, d'après les statistiques, il y a un certain nombre de facteurs de vulnérabilité. C'est quoi? C'est le chômage, c'est le manque de moyens financiers, c'est une santé qui est dégradée, ça peut être aussi le mal logement, aussi les minorités aussi. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous apporter une certaine dose de stress. Et puis en même temps, on est conscient que plus le monde avance, et plus l'ennemi va tout faire pour empêcher les hommes et les femmes de découvrir l'amour de Dieu. Et il y a de fortes attaques, agressions, il y a tellement de choses. Alors tout cela, on le sait. On sait dans notre intellect, on le sait. On a toutes les infos, on regarde. Ça, tout ce que je suis en train de vous dire là, ce sont malheureusement des banalités. Vous pourriez dire, ok, bon. Mais on a cette dimension en plus de dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on est sur une position de dire on est sauvé? Alors c'est bien. Le reste, l'important, c'est que je sois bien logé, j'ai assez de, voilà, j'ai de quoi vivre, ça va bien, je suis sauvé, c'est super. Et je crois que le Saint-Esprit, ce matin, veut amener dans notre cœur cette conscience qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont véritablement besoin que nous puissions être qui on est vraiment, être des témoins. Et comment on peut faire? On ne peut pas le fabriquer. Paul n'a pas prié pour avoir la vision. J'imagine qu'il a quand même prié, ils ont prié pour dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'on va faire au jeûne et prière tout à l'heure. On va prier. Seigneur, on a fait un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, quelle est la direction en tant qu'Église? On est tous appelés à être des témoins, on est tous appelés à l'être à chaque instant, mais force est de constater que dans l'histoire de l'Église, à des moments donnés, le Saint-Esprit a mis à cœur, je dirais, des personnes spécifiques à des personnes spécifiques. Vous vous souvenez de l'armée du salut, 19e siècle, pleine révolution industrielle, une pauvreté extrême dans le milieu ouvrier. Et voilà qu'un monsieur qui s'appelle William Booth, avec son épouse Catherine, à un moment donné, sont touchés. Ils ont l'appel, pas du Macédonien, mais de ces ouvriers qui sont dans la misère. Ils sont chrétiens, ils vont se lever et ils vont s'investir pour être des témoins de Christ dans ce lieu et dans cette période. Ils auraient pu très bien aller en Chine, comme Hudson Taylor. Ils auraient pu très bien s'occuper des orphelins à Bristol, comme George Muller, qui, lui, était un théologien, son père prussien. Voilà, il était tranquille. Puis, à un moment donné, il est touché dans son cœur par le Saint-Esprit pour s'occuper des orphelins. Il en a hébergé 10 000, plus de 10 000. Il a, par la foi, j'aime bien sa devise, il dira, on estime aujourd'hui qu'il a récolté 150 millions d'euros sans jamais rien demander. Sa devise, c'était, si le Seigneur le veut, nous le voulons aussi et nous le ferons. C'est excellent, hein? Si le Seigneur le veut. Ça, c'est le point de départ. Qu'est-ce que Dieu veut? Si Dieu le veut, nous le voulons aussi et nous le ferons. Douglas Scott, ce jeune Anglais qui s'est converti dans les églises Elim au début du XXe siècle, il a à cœur d'aller en Afrique francophone et un de ses amis lui conseille d'apprendre le français. Il arrive au Havre. Et au Havre, il y a une dame de Suisse qui s'appelle Hélène Biollet, qui, à la fin du 19e siècle, donc on est fin 19e, début 20e, qui va ouvrir le fameux, je dis le fameux parce que voilà, on a pas mal étudié cette période-là, le Ruban Bleu. C'est un bar sans alcool, à côté des chantiers navals, où il y a beaucoup d'alcoolisme. Donc c'est un bar sans alcool. Et elle va inviter des gens qui ont vécu le réveil en Angleterre, au Pays de Galles. Et elle va inviter ses serviteurs. Jeffreys, Smith Wigglesworth, des miracles extraordinaires. Et voilà que Douglas Scott, ce jeune anglais qui s'est converti, qui veut servir Dieu en Afrique, francophone, il doit apprendre le français. Donc il va aller au Havre, il va rencontrer cette sœur, et puis il va passer un certain nombre de temps, il va se marier, il revient en 1930, et quand il arrive là-bas, il prêche, conversion, guérison, et il va demander au Seigneur, ça c'est intéressant, c'est le point intéressant. Dans son histoire, il est dans cette question, est-ce que je dois persister dans mon appel missionnaire ? Notamment, c'était voilà, l'époque au Congo. Est-ce que je dois persister dans cette vocation-là ou est-ce que je dois rester en France ? C'est la question. La question qui se pose. Et lors d'une réunion de prière, une réunion de prière comme on va avoir tout à l'heure dans ce jeûne et prière, dans une simple, entre guillemets, réunion de prière, toute simple, dans ce café au Havre, dans les années 30, le Saint-Esprit va lui dire, écoute, tu restes en France, et tu exerces ton ministère en France. Et dans la francophonie. Mais à ce moment-là, moi j'ai eu son fils au téléphone, parce que je faisais une recherche sur sa vie, et il habitait Londres, on a parlé, bon, il était déjà âgé à ce moment-là, et il m'a raconté, parce qu'il y a très très peu d'histoires, il y a très peu de livres sur son histoire, parce qu'il ne voulait pas, très très humble, il ne voulait pas trop se mettre en avant. Et j'ai eu son fils au téléphone qui m'a expliqué sa vie, son cœur. Et en réalité, il a été déçu. Parce que pour lui, la France, c'était une étape. Il était à Troyes, il était en Missy. Lui, il voulait aller en Bitini, il voulait aller au Congo, évangéliser. Et le Seigneur lui dit, non, tu restes. Waouh, il n'a pas été très loin hein, dans son voyage missionnaire. Mais, vous savez, pour ceux qui savent, je sais que Jean-Pierre, Suzanne, vous étiez pasteur dans le nord de la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu d'innombrables églises qui ont vu le jour au travers de son ministère. Alors vous allez dire, c'est la France, on est moins intéressé. Bonne nouvelle, il y a la Suisse aussi. Il a été en contact avec justement des serviteurs de Suisse, Arthur Marais, Arthur Lorenz, Adolphe Hunziker, et dans les années 36, là où on va aller avec les aînés, à Chardonne, dans le temple de Chardonne, eh bien ils ont été là et il y a eu vraiment un impact. Il y a eu des guérisons, il y a eu des conversions. Ça a été vrai à La Chaux-de-Fonds aussi, avec André Thomas Bresse. Globalement, il y a eu des bénédictions extraordinaires. Et on est toujours au bénéfice aujourd'hui de ces bénédictions, de la même manière qu'on est toujours au bénéfice des bénédictions de Paul et de son équipe. Heureusement qu'ils ont obéi. Amen. Et ça, c'est vraiment encourageant. Plus près de nous, bien sûr, on a tous des missionnaires en tête. Moi, je pense à Véronique, je ne sais pas si elle est là. Elle a à cœur les requérants d'asile. On pense à Joël et Suzanne Bussy, les migrants, et puis bien d'autres. Vous savez, dans la prière, dans le réseau évangélique lausannois, plus près de nous, en 2017-2018, on a reçu avec le conseil, et avec notamment aussi Jean-François Davé, on a reçu cette vision pour Lausanne et sa région, et même d'ailleurs plus large, d'organiser ce qu'on a appelé le turning. Alors je sais que, en tout cas, cette évangélisation de rue qui, pour nous, a duré de 2019 à 2023. Bon, à la fin, c'était un peu moins mobilisateur, on va dire ça. Mais quand on reçoit ça dans la prière, en 2017, c'était un projet un peu fou quand même. D'ailleurs, il y a beaucoup de pasteurs suisses qui ne comprenaient pas tellement, ni moi d'ailleurs, parce qu'il y a Inka qui est arrivé avec sa vision, et on s'est dit, qu'est-ce qu'il veut exactement dire ? On ne comprend pas tellement. Par contre, ce qu'on savait, c'est que d'un seul coup, dans notre cœur, il y a quelque chose qui a vibré quand on a pensé à notre région, quand on a pensé au Grand Lausanne. Et voilà que pendant 2017, 2018, 2019, on prie. 2019, Il y a eu les 7 cantons romans ont été concernés. Il y a eu 125 églises qui se sont mises ensemble pour évangéliser. Et il y a eu, en 2019, pour ceux qui étaient, globalement en Suisse romande, il y a eu plus de 1000 personnes dans la rue qui ont prié pour demander de l'aide au Seigneur. Il y a eu 160 suivis, dont 123 qui ont intégré une famille spirituelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais moi, je me souviens du départ. Je me souviens du départ quand on a partagé le projet. Et pendant des mois. Des mois, on a prié. Des mois, on a un peu commu cette... pas la vision, mais en tout cas la vision intérieure de dire, mais pour notre région, est-ce qu'on ose se lever ? Alors je sais, je ne rentre pas dans le débat du type d'évangélisation. Hein. Il y a aussi Olivier et Monica qui étaient bien présents. Peu importe, que ce soit par l'amitié, que ce soit par dans les groupes de maison, quel que soit le moyen, la réalité c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent, qui sont dans les ténèbres. Et nous sommes appelés à être une église qui, par la grâce de Dieu, amène la lumière dans leur cœur. Amen. Amen. Et vous voyez ici, que s'est-il passé ? Il y a eu, quand ils reçoivent la vision, vous savez, on a eu le vertige hein, par rapport à Turning. On a vraiment eu le vertige quand on entendait Yinka et quand on a commencé à prier pour ça. On s'est dit, mais vraiment, on va aller dans la rue avec toutes ces églises, on va vraiment faire ça. Pour l'équipe de Paul, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils sont convaincus, ils y vont. Donc, ils cherchent un moyen, ils passent à l'action, ils cherchent un bateau, ils vont aller en Macédoine, ils vont aller Néapolis, Philippe. Et quand vous regardez les textes, regardez au verset 13 d'acte 16, il est dit que le jour du sabbat, ils vont se rendre à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Ils ont la vision, ils passent à l'action, mais ils n'oublient pas d'intercéder, ils n'oublient pas de chercher Dieu. Ensuite, on a la conversion de Lydie. Lydie, cette marchande de pourpre. Juste après, la Bible nous montre qu'il continue à chercher à intercéder. Et puis vient la confrontation. Voilà que tout se passe bien, ils ont la vision, ils y vont, ils intercèdent, conversion, ils cherchent encore à nouveau à intercéder. Et là, il y a une confrontation. C'est une femme qui, d'un seul coup, au verset 16, il est dit qu'alors qu'ils vont se rendre au lieu de prière, il y a une jeune esclave qui avait un esprit de divination. Elle vient à leur rencontre. Et là, elles vont commencer à vraiment entrer dans un conflit spirituel. On se dit, quand Dieu bénit, est-ce que vraiment c'est normal qu'on ait de l'opposition ? Et des fois, dans l'évangélisation, on peut se dire en tant qu'église... Encore évangélie, on va prendre des coups. Hein. Je n'ai pas tellement envie. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu est avec nous, c'est Dieu qui combat. C'est lui qui agit. C'est lui qui fait. Et quand cet esprit de divination va se manifester, à un moment donné, Paul prend autorité. L'esprit de divination part. Et à ce moment-là, les ennuis vont continuer. Parce que la personne qui bénéficiait, qui exploitait cette servante, va se lever. Il va y avoir les juges, la foule, ils vont déchirer leurs vêtements, ils vont les frapper avec un fouet, ils vont se retrouver en prison. Ça, c'est pas drôle. Et ensuite, il y a cette dimension de libération. Regardez au verset, on peut y aller dans cette libération, ils sont dans la prison. Vers le milieu de la nuit, ils vont quoi faire ? Se lamenter, se dire, tu vois, je t'avais dit de pas y aller. Mais je t'avais prévenu de toute façon. Paul, tu veux toujours, toujours en faire trop, quoi. Mais vraiment, tu exagères quand même. Est-ce qu'on n'aurait quand même pas mieux fait de retourner sur nos pas ? Vraiment, t'es insupportable, Paul, hein, vraiment. Ils sont dans la prison, ils ont été fouettés, ils n'ont plus de vêtements, et ils vont chanter des louanges à l'Éternel. Ils vont chanter des louanges. il y a ce tremblement de terre, les fondations de la prison sont ébranlées, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. La première étape de libération, elle vient d'abord de Dieu. Cette libération qui vient de Dieu, quand on est dans son plan, dans sa volonté, quand on est envoyé par lui, nous n'avons pas à avoir peur, même s'il y a un prix à payer. Il y a de toute façon toujours un prix à payer. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des serviteurs et des servantes qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont pleuré, qui ont eu la vision de venir nous parler. Ils ont payé le prix, ils ont osé prendre des risques, ils ont osé payer ce prix-là pour que nous puissions, nous, être à l'écoute de cette bonne nouvelle et pouvoir être transformés. Ils sont dans cette prison, voilà que les portes s'ouvrent, il y a une action directe de Dieu parce que Dieu prend soin, il combat pour nous, il combat pour son Église. Amen. Et dans un deuxième temps, bien, c'est les autorités judiciaires qui vont prendre le pas et qui vont dire... Alors d'abord, quand les portes s'ouvrent, à ce moment-là, on a le gardien qui veut se tuer. Mais Paul et tous les prisonniers ne se sont pas échappés. Et voilà la deuxième conversion. Ensuite, les autorités judiciaires viennent. OK, c'est bon, vous êtes libérés. Deuxième étape. Jusqu'à là, globalement, on connaît le texte. J'ai une question à vous poser sur la troisième étape. Est-ce qu'on peut prendre le texte ? Prenez, si jamais vous avez le texte. Regardez la troisième étape. C'est les versets 37 à 40. Dans la troisième étape de acte 16, voilà que Dieu est intervenu d'une manière surnaturelle. Voilà que les autorités judiciaires disent « Ok, c'est bon, vous êtes libre. » Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Paul, au verset 37 ? Il est dit, Paul, verset 37, dit aux agents « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, mais maintenant, ils nous feraient sortir en secret. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges, qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, ils sont entrés chez Lydie, et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis parce qu'il y avait d'autres chambres missionnaires. Question. Est-ce que Paul fait un caprice ? Un caprice de star ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Oui ? Vous pouvez réveiller celui qui est à côté. Posez-lui la question. Pourquoi Paul fait ça ? Moi, pendant longtemps, j'ai lu ce texte. J'ai dit, bon, ok. Je sais pas. Franchement, je savais pas. Le citoyen, c'est un acte citoyen. L'acte citoyen de Romain, de Paul, qui est romain. Pour quelle raison va-t-il agir comme il a agi ? Eh bien, pas par rapport à un caprice personnel, pas parce qu'il fait, il veut se venger. Mais il a le souci, lui va partir, mais l'Église va rester. Et en prenant cette position-là, en disant nous sommes romains. Et ce que vous avez fait là n'est pas légal. Et il va le dire aux autorités de cette ville de Philippe. Et la raison pour laquelle il va prendre cette position, c'est parce qu'il sait que lui va partir, mais les chrétiens vont rester. Et qu'en partant, il veut véritablement que les autorités sachent qu'ils n'ont pas à faire ce qu'ils ont fait à Paul et à son équipe. La motivation de Paul, c'est de dire l'Église doit être protégée. Doit être en sécurité. Et c'est assez extraordinaire, parce qu'il y a une stratégie divine, mais il y a aussi une stratégie très intelligente, citoyenne, en disant, OK, on va pérenniser l'Église, pas seulement spirituellement, mais aussi au niveau législatif, au niveau social. Et ça, c'est juste. Parce qu'en tant que chrétien, on a la tête dans le ciel, mais on a les pieds sur terre, et on a besoin de respecter les lois, de respecter les autorités, on a besoin de prier pour elle, on a besoin d'être véritablement cohérent entre notre position spirituelle et notre position dans cette société. Il y a des fruits, c'est extraordinaire. Je voudrais juste finir ce partage en nous défiant, pas seulement en tant qu'Église, mais en tant que chrétien, là, peut-être là où on habite, Et j'ai envie de nous poser la question, qui sont les Macédoniens vers lesquels Dieu nous envoie aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu met sur notre cœur? Pas seulement en tant qu'Église, mais également en tant que chrétien. Ça peut être des membres de notre famille, ça peut être des voisins, ça peut être des enfants, ça peut être des ados, ça peut être beaucoup de monde en fait. Mais l'important pour nous, et comme on l'a vu, c'est quelle est la priorité, quelle est la stratégie de Dieu. Je vais juste, pour illustrer, c'est la vidéo qu'on a vue lorsque on a fait Turning par rapport à la région de Lausanne. Je ne sais pas si elles sont, mais l'idée c'est de regarder la ville dans les yeux avec l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas grave s'il n'y a pas le son. Ce n'est pas très grave. Et en regardant ces personnes dans les yeux, on peut aussi demander au Seigneur, et on va faire ça tout à l'heure dans le jeûne et prière, on va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelles sont les personnes que tu nous mets à cœur. C'est pas grave, mais l'autre, on va passer l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de la RTS récemment, qui montrait Bussigny et l'Ouest lausannois. Est-ce que ça fonctionne? Vive la technique. C'est pas grave, vous pourrez regarder ce reportage qui montre toute la croissance de notre ville et l'augmentation, sauf erreur, il y avait 80 000 habitants, voilà, vous l'avez ici. Il y avait 80 000 habitants et on va passer, je crois, dans la région de l'Ouest lausannois à 115 000. Et dans le reportage, vous voyez, il y a les différents chantiers, il montre même la gare. Vous voyez? Donc ça, c'est les nouveaux bâtiments qui sortent de terre dans notre région. Et puis il y a ce débat, donc cette dame, et il parle du débat de trouver des crèches, la problématique de trouver des crèches lorsqu'il y a une croissance de population. Et quand je vois ce reportage, je me dis, bien sûr que c'est une vraie question de trouver des crèches pour les enfants. Mais ma question, notre question ce matin, c'est de dire, y aura-t-il assez de chrétiens nés de nouveau pour pouvoir témoigner à toutes ces personnes qui vont venir. Et ça peut être une piste, je dirais, de Macédoniens, de ce que Dieu peut mettre sur notre cœur. Mais il peut y avoir toute autre cible, ça peut être, comme on l'a dit, les requérants, les migrants, ça peut être nos élèves si on est enseignant, ça peut être les malades si on est soignant, ça peut être toutes sortes. Et on va prier par rapport à ça. Je voudrais juste, pour illustrer ce propos, laisser la place à Salomé, qui va nous dire aussi, par rapport à ce qu'elle a reçu avec l'équipe de jeunes qui vont partir en mission, de dire, d'entendre leur cœur aussi par rapport à cette cible, entre guillemets.
Ce qui est intéressant quand est-ce qu'on lit et ce qu'on a partagé ce matin, c'est qu'il n'y a pas de différence de valeur entre rester ici et partager à nos voisins ou aller Afrique, Indonésie pour partager aux personnes qui ont besoin aussi. Il n'y a pas de différence de valeur, seulement il faut avoir la conviction que c'est Dieu qui nous envoie ici ou là. C'est Dieu qui envoie pour rester en France ou pour partir à l'étranger. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Donc, pour ma part, c'est évident que Dieu m'a donné un cœur pour les peuples musulmans. Alors, il y a tout eu un cheminement par rapport à ça. Mais de fait, d'avoir ce cœur, j'avais aussi le désir de pouvoir emmener avec moi quelques personnes pour notre prochain voyage missionnaire. Je travaille aussi avec la mission Frontières, qui est focus sur les pays musulmans. Et donc, voilà, cet été, nous partons au Bénin, moi-même avec Mathurin et Baptiste. C'est pourquoi nous profitons de vous présenter aussi le projet. Tu peux changer la slide? C'est pas la bonne. Oui, je voulais vous montrer ça. C'est un organisme donc missiologique qui s'appelle Joshua Project. Et la zone rouge ici, c'est les peuples non atteints. Non atteints, on entend un peuple est non atteint dès l'instant où il y a moins de 2% d'évangéliques et moins de 5% de chrétiens traditionnels dans le pays. Et on voit donc toute cette zone rouge qui est appelée la fenêtre 10-40, 10 degrés en dessous de l'équateur, 40 degrés en dessus de l'équateur. Et donc c'est là où il y a le plus de besoins, pourtant c'est là où il y a le moins d'envoyés. Il y a plusieurs raisons à cela. Vous voyez aussi que la majorité, très grande majorité de ces pays rouges sont en fait des peuples musulmans. Et peut-être que qu'il n'y a pas assez d'envoyés, c'est aussi par un manque d'information, une certaine crainte par rapport à une religion qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que j'ai aussi à cœur de pouvoir partager sur ce qu'est l'islam. On peut changer la slide. Et maintenant, c'est plus spécifiquement par qu'est-ce qu'on va faire concrètement au Bénin. Voilà, nous partons dans la ville de Djougou. Bénin, c'est majorité christianisme, 80% et 20% islam, mais la ville de Djougou est 80% islam et 20% christianisme, dont majoritairement le catholicisme. C'est ça. Donc c'est pourquoi nous partons dans cette ville-ci pour atteindre deux peuples. Les Dendi et les Fulani, qu'on peut aussi appeler Peul. Et la dernière slide. Voilà, pourquoi je vous partage tout ça? C'est parce qu'après avoir discuté aussi avec le conseil, ce serait bon que nous puissions prier ensemble pour les projets missionnaires pour les missionnaires qui partent, et aussi pouvoir vraiment, on a juste besoin de prière, et comme nous sommes envoyés de l'Église, c'est trop important et ça fait une réelle différence. Pour cette fois, c'est donc 4 semaines, à peine moins, et c'est une formation de 100 Béninois locaux, avec les églises locales déjà présentes évangéliques, églises apostoliques. On est une trentaine de Suisses, donc les 3 qu'on part aussi avec. Et pour la vue globale, c'est aussi sur 3 ans, c'est-à-dire que là, c'est un voyage qui impulse un premier implantation d'église de maison, et il y a le suivi sur 3 ans, sur 6 mois, où nous partons une petite équipe pour faire le suivi des équipes en place. Et sur place, eh bien, c'est de l'évangélisation. C'est la formation le matin par rapport à comment partager l'évangile au peuple musulman, et les après-midi, c'est l'évangélisation, c'est prier, bénir, prier pour les malades, guérison, délivrance, baptême, repentance, église, et puis la vie de Jésus. Ça fait beaucoup d'informations, et on aura l'occasion de pouvoir repartager sur ce sujet, parce que c'est en juillet. On fera également certainement un groupe WhatsApp de prière, pour un peu donner les informations spontanément, et les personnes qui souhaitent s'investir en prière pour ce voyage, c'est... avec grand plaisir.
Donc, super projet, hein ? Amen. On va prier pour ça. Si vous avez des questions, si au jeûne et prière aussi, vous pourrez en poser. Est-ce qu'on peut finir par la prière ? On va se lever ensemble pour ceux qui peuvent.